Salut !
On espère que vous allez bien. Je suis Céleste.
Et moi, Maïli.
Et bienvenue dans notre émission Le Dernier Mot.
Un podcast sur les livres.
Pour notre premier épisode, nous avons choisi de faire une critique sur La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab.
Bonne écoute ! Ce podcast sera centré sur deux parties, une partie sans spoil et une partie avec spoil. Ne vous inquiétez pas, on vous préviendra quand on passera d'une partie à l'autre.
Alors tout d'abord, on voulait revenir sur l'autrice. V.I. Schwab, elle est connue pour pas mal de livres comme Shade of Magic, Calan. Alors ce que j'aime beaucoup avec cette autrice, c'est que dans ses livres, elle normalise le fait d'être de la communauté LGBT, c'est-à-dire par exemple avec des scènes banales de la vie quotidienne, etc.
L'autrice, elle promeut vachement des valeurs LGBT sans forcément insister là-dessus, en faisant comme si c'était normal, alors que dans beaucoup d'œuvres, on a ce besoin de montrer l'inclusion des personnages.
Elle le normalise. Je pense que c'est ce dont on a besoin dans les livres maintenant. Essayer de rendre ça normal dans notre société qui est patriarcale, tout simplement. Donc, dans cette histoire, on suit Adi, qui, soif d'aventure et de liberté, a fait un pacte avec le diable, Luc. Ainsi, elle va se retrouver complètement oubliée de tous et va errer pendant des siècles comme un fantôme.
Dans son pacte avec le diable, Adi a souhaité n'être attachée à personne et vivre autant qu'elle le souhaite.
C'est ainsi qu'elle va être en fait tout simplement immortelle et va errer seule pendant des siècles jusqu'à arriver dans le présent où elle va faire la rencontre de Henri en 2014. Mais du coup, on a trois personnages principaux dans cette œuvre. Nous avons Adi, qu'on va suivre au fil des années. Puis nous avons le temps présent, où on la retrouvera avec Henri à New York en 2014.
Alors, on va revenir un peu sur le personnage d'Adi. Ce qui nous a plu, comment elle est, quel est son tempérament.
Alors, Adi est originaire de Vion, en France. Donc, c'est une Française, donc c'est plutôt cool d'ailleurs. Depuis qu'elle est jeune, elle adore dessiner. Elle rêve de découvrir le monde. Elle a soif de liberté, elle n'a pas du tout envie d'avoir le destin que ses parents veulent d'elle, c'est-à-dire être mariée, avoir des enfants comme son amie
Isabelle. Moi je trouve que c'est un personnage qui est très moderne, qu'on a placé dans un contexte un peu ancien, dans le sens où elle a des passions, des rêves qui sont très actuels. Elle a soif de liberté, de découverte, mais à la fois on est en 1714. C'est pas censé traverser même l'esprit des gens, un truc pareil. T'es dans une petite ville, ton univers est complètement fermé, tu n'imagines pas ce qu'il y a derrière, et la finalité de ta vie, c'est vraiment te marier, avoir des enfants, perpétrer tout ce système très patriarcal. Là où Adi a une vision très féministe.
En soi, féministe jusque-là, à ce moment-là de l'histoire, je suis pas sûre. Disons qu'en fait, c'est une rêveuse. Elle rêve en fait de voir ce qu'il y a en dehors de son petit village. C'est une rêveuse, une artiste, elle dessine beaucoup. C'est cette soif de voir l'inconnu qui fait que, comme ils le disent à un moment donné dans le livre, elle est intemporelle pour ça. Donc je pense que le côté féministe, en soi, c'est pas forcément abordé dans l'histoire. En fait, c'est une femme libre, tout simplement, qui ne veut pas s'adapter aux normes de la société dans le passé ou dans le présent.
Ce que j'entends par féministe, c'est que je trouve que c'est un peu une femme moderne en 1714. Elle a des préoccupations, elle a un caractère très indépendant que t'as pas en 1714 à l'origine, tu vois.
Oui, bien sûr.
C'est féministe dans ce sens-là pour moi.
En fait, c'est le fait qu'en soi, elle a pas... Alors je dis pas qu'elle a pas eu une éducation, mais elle a pas eu une éducation stricte. Elle a été élevée dans la nature, chez des paysans tout simplement. Et du coup je pense que cette liberté déjà quand même qu'elle avait d'une certaine manière dans sa ville fait qu'elle est comme ça aussi tout simplement.
Je pense que l'éducation de son père joue beaucoup dans ça, dans ce fait qu'elle soit libre. C'est lui qui lui offre de quoi dessiner, de quoi s'évader. Après t'as aussi un côté où ça peut être à double revers. T'as pas l'ouverture d'esprit des grandes villes, des grands auteurs, tout ça.
C'est vrai que dès le début, elle disait que la seule ville qu'elle connaissait de nom, c'était Paris, dû aux histoires qu'on lui racontait.
Moi, je trouve le fait que ce soit dans une campagne, t'as un peu ce truc-là de, et elle le dit, son univers, c'est Villon. Et elle ne connaît que ça, elle le connaît par cœur, mais ça s'arrête là. Et un peu le rêve de liberté, c'est Paris. Pour nous, ça, Paris, on y est en 2 heures, quoi.
C'est ça. 3 heures.
3 heures. Mais Adi a un monde petit et elle rêve grand.
Totalement. En fait, on peut la résumer avec cette phrase. C'est une aventurière en soi. On peut maintenant passer à Luc. deuxième personnage principal. Alors Luke, en fait, tout simplement, c'est la personne avec qui elle va faire son pacte. C'est elle-même qui le nomme comme ça. On n'en dira pas plus sur ça. Mais c'est un personnage dont le surnom est le Ténébreux, et ça veut tout dire. C'est une ombre, en fait. Il est là, et on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quel diable c'est, de quelle légende il vient, on ne sait rien. On sait juste que c'est une personne auquel on ne doit pas demander de l'aide la nuit tombée, tout simplement.
Alors en fait, dans cet univers-là, il y a les anciens dieux. Les anciens dieux, c'est des dieux un peu à la mode païenne. Ils ne sont ni mauvais, ni bons. Ils sont imparfaits comme des humains, mais ils ont ce pouvoir de dieu. Et il y a les bons dieux, des dieux plus généreux que d'autres. Luke fait partie de ces dieux de la nuit tombée, qu'il ne faut pas prier car c'est des dieux jugés malveillants. Et ça se confirme avec le pacte d'Adi qui va se retourner contre elle. Ses vœux vont être certes exaucés, mais Luke va donner une contrepartie terrible. Elle est libre, elle n'appartient à personne.
Elle a le temps qu'il lui faut pour découvrir le monde.
Mais à la fois, elle est oubliable des autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une porte va se fermer, qu'elle va quitter le champ de vision ou la pièce, cette personne va complètement l'oublier. Donc, elle n'appartient à personne, mais à l'excès.
Il va se passer ça pendant 300 ans. 300 ans, elle va errer comme ça dans le monde, jusqu'à ce qu'une personne, en 2014, se souvienne d'elle après qu'elle ait fermé une porte. C'est Henri. Henri ressemble un peu physiquement à ce démon, mais dès le début, on le différencie de ce démon. Par sa posture, par son sourire, par sa façon de communiquer avec Adi, on sait directement qu'il y a quelque chose, mais c'est pas forcément lui.
Je trouve que Adi, Luke et Henri, c'est les trois personnages les plus développés. Henri est le personnage sans doute le plus humain des trois. C'est-à-dire qu'il ne va pas être présenté sous un jour toujours glorieux. On a un peu l'impression qu'Henri, c'est une âme perdue.
En fait, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'Henri, c'est un peu notre génération. Génération, je parle de nous, les étudiants. C'est une personne qui se pose des questions. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il n'a pas d'ambition. Il a l'impression d'être nul en tout. En fait, je trouve qu'il aborde des problématiques dont nous, on est victimes, dont nous, nous les étudiants actuellement, ou pas forcément que les étudiants, en fait, tout simplement, les 18 ans et plus, même avant, maintenant, les adolescents, on se pose. Et c'est pour ça que je trouve que beaucoup d'entre nous, on s'identifie à ce personnage, parce que, contrairement à Adi et Luke, lui, c'est vraiment un personnage banal, en fait. Banal dans le sens où on est tous un peu comme lui, je trouve.
Je sais pas, moi, Henri, je le vois pas du tout comme un personnage banal. Je trouve qu'il a un côté qui est très particulier, il a une très grande sensibilité et un besoin d'attachement fou. D'un côté, il est beaucoup plus humain que Adi et Luke, et on nous le montre un nombre incalculable de fois. D'un autre, il représente pas tout le monde, pas toute notre génération.
Alors, je dis pas entièrement, mais je dis certaines problématiques qu'il aborde lui-même. Par exemple, le fait de pas savoir quoi faire de sa vie et d'être sous pression. C'est pour ça que je dis que d'un côté, il est banal. Pourquoi ? Parce que justement, comme tu dis, il est humain. Je trouve qu'il nous ressemble pour ça. Voilà, il est plus humain que les deux autres et du coup, il est plus réel. C'est pour ça que je dis qu'il est banal. Pourquoi ? Parce que il pourrait exister alors que je trouve qu'une Adi et un Luke, ils peuvent pas exister.
Je suis complètement d'accord sur ça. Je pense aussi qu'il ressemble à notre génération dans son besoin de, quelque part, de contact, d'être considéré, ce besoin un peu d'attention et cette impression de ne pas être assez bien pour ses parents, assez bien pour les gens qui l'entourent. Ça fait deux pôles qui ne sont pas dissociables de cette volonté de faire bien, d'être meilleur, de satisfaire tout le monde, par un besoin aussi d'être complètement considéré. Et le fait d'emmagasiner tout ça, ça fait que Henri, il a quelque part un craquage où il n'a plus d'ambition. Il ne veut pas avoir plus, même s'il en a les capacités, parce qu'il a trop peur de cet inconnu un peu.
Et c'est pour ça aussi que d'un côté, Adi et Henri, pour ça notamment, sont totalement différents. C'est hyper intéressant d'être face à des personnages totalement différents, mais en même temps, qui s'assemblent bien, on va dire.
Après, je trouve que la relation Adi-Henri, et je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a vachement un truc de dépendance.
Ouais. Alors, même si on est dans un podcast, on voulait quand même aborder avec vous la couverture du livre. On vous invite à aller faire la recherche. En fait, ce qu'on aimait beaucoup déjà, rien qu'avec la couverture du livre, en fait, tout simplement, je pense qu'on a toutes les deux été fascinées par la couverture du livre.
Avec le livre qui est dans un pochoir semi-transparent. Et la première de couverture sans le pochoir, c'est Adi. quand on met le pochoir, on la voit très peu,
elle est floue,
on la discerne à peine. Et ça représente énormément le personnage d'Adi dans le livre, qui donc est oubliable, comme elle est floue.
C'est ça. Et en fait, ce qui est hyper intéressant quand on met le pochoir, c'est qu'on a le titre de l'œuvre qui est en grand. Donc en fait, on voit que ça et un personnage flou qu'on voit à moitié juste derrière. On a aussi la constellation qu'on retrouvera énormément dans le livre, les 7 taches de rousseur qui forment une constellation qui la représente énormément, qui est littéralement en fait son identité même presque dans le livre.
C'est une particularité qui va être beaucoup soulevée dans le livre. Les gens vont la remarquer tout de suite par ses taches de rousseur. Ça va être un peu son symbole à elle.
Et on l'abordera surtout dans la deuxième partie, mais l'idée du flou comme ça, c'est comme lorsque on la prend en photo. On aura la silhouette, mais pas le visage. Donc on en reparlera à un moment donné dans la deuxième partie. Mais c'est pour ça que déjà cette couverture veut dire beaucoup de choses et on la trouve extrêmement...
parlante.
Même touchante et vraiment belle, tout simplement. C'est un livre extrêmement beau, juste bon, un peu vite cassé. Vite dans un mauvais état, on va dire.
La couverture s'abîme, prenez-en vraiment soin. Alors, on va vous parler maintenant du style d'écriture, qui est un style assez particulier. C'est une autrice de notre siècle, donc qui utilise nos mots, mais qui a un style poétique, souvent propre aux auteurs plus anciens.
Elle a une manière d'écrire où, personnellement, j'avais l'impression de juste lire un long poème. J'étais vraiment fascinée par la beauté de l'histoire. Tout ce qu'on lisait, c'était beau. En fait, c'était ça, c'était beau. J'avais vraiment l'impression de lire une poésie. Alors, à rassurer, c'est pas très compliqué à lire. C'est très long parce que c'est plein de petits chapitres. Si vous cherchez un livre où les mots vont vous émouvoir, je pense que c'est le livre parfait, en tout cas selon moi.
Puis, le style d'écriture n'est pas lourd. Quand il y a cette recherche du poétique, certains auteurs ont tendance à surjouer, à faire beaucoup de métaphores. On se perd un peu dans le récit et on ne s'identifie pas beaucoup au récit. Il nous paraît trop flou. Elle est facile à lire.
Les mots sont simples. Elle dit directement ce qu'elle veut dire.
Le livre n'est pas descriptif. On a vraiment une histoire, l'histoire avance. Il n'y a pas ce côté-là où, des fois, les livres qui prônent un style poétique, ils passent souvent dans beaucoup de descriptifs.
Ouais, c'est pas comme Le Rouge et le Noir, où au début de l'histoire, vous allez avoir 10 pages de la description de la campagne, là.
Là, ça va. Là, il y a une vraie histoire derrière. Vous inquiétez pas.
C'est ça. Avant de passer à la partie 2 où il y aura des spoils, on aimerait quand même vous donner notre avis général. Alors, pour ma part, La vie invisible d'Adi Larue, c'est tout simplement mon livre préféré. C'est, je pense, le livre qui m'a le plus touchée par son écriture, par sa fin, que j'ai trouvée incroyable. Pour le personnage d'Adi, je me suis beaucoup retrouvée en elle, sa soif d'aventure, ses rêves, son âme d'artiste, parce que ça revient souvent. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi têtu qu'elle. Je la trouve impressionnante pour ça. C'est vraiment un personnage tellement incroyable. Elle est tellement bien approfondie. Pareil pour Henri. J'ai beaucoup aimé le fait que ça soit pas du tout un personnage parfait et qu'il soit assez déconstruit dans le sens où sa sensibilité qu'on retrouve pas tout le temps sur des personnages hommes. Et ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, tout simplement, l'histoire, le fait qu'on traverse le temps avec elle, j'ai trouvé ça vraiment beau. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y a plein de symboles qui se rattachent à ce livre. La bague en bois, l'oiseau, la constellation. Toutes ces petites choses qui font qu'on arrive super bien à imaginer l'univers. Et je trouve que pour ça, c'est vraiment réussi. C'est le fait que rien qu'avec ces petits objets, ça nous renvoie à l'histoire. Je trouve que c'est super facile d'imaginer un peu les couleurs, l'esthétisme du livre. Et rien que pour ça, en fait, c'est qu'elle a réussi en fait, à nous mettre dans l'univers.
Pour ma part, j'ai beaucoup aimé surtout le style de l'autrice. Ça m'a redonné un peu foi dans les livres plus récents, avec un style très poétique, une vision de la vie à travers Adi qui est, je trouve, hyper belle. Des objectifs, des rêves qui sont juste magnifiques. Ce besoin de liberté, d'art, de considération aussi, énormément. Cette importance des mots et tous ces lieux et ces personnages qu'elle présente comme des poèmes. Des passages dans la vie d'Adi et je trouve ça incroyable, voilà. Je trouve ça si beau et si intéressant, cette façon d'écrire un roman et cette façon de voir un univers qui est si particulière à l'autrice. J'aime bien ce côté-là où on a des personnages qui ne sont pas humains. Henri, il présente ce côté très humain, mais j'adore le personnage d'Adi et Luc justement parce qu'ils cassent ce côté-là. Ils exacerbent certains côtés de l'humanité, parfois moches, parfois tellement beaux. J'aime bien vivre l'univers à travers des personnages qui sont extraordinaires, surnaturels. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aime s'identifier aux personnages. Moi, j'aime bien le fait qu'il soit extérieur complètement à moi et que j'ai une autre vision de la vie dans des romans, tout ça.
D'ailleurs, pour ceux qui veulent le lire et qui ne l'ont pas encore lu, je vous conseille vraiment de prendre le temps pour le lire et pas de se sentir pressé. C'est un livre que vous n'allez pas dévorer comme ça en 3 jours. Moi, je sais que je l'ai lu pendant 2 mois, je crois. C'est ce que j'ai aimé, c'est que des fois, je me posais 5 minutes et je lisais un chapitre. Et donc vraiment, je vous conseille de l'aborder de cette manière-là. Prenez le temps de le lire tranquillement, sans vous casser la tête, et quand vous en avez marre, vous arrêtez. Et vous faites une petite pause de quelques jours, puis vous reprenez.
Prenez le temps de lire un chapitre, de vous poser, de réfléchir à ça pendant quelques jours, de laisser ce livre en attente.
C'est ça. Donc maintenant, on va passer à la partie 2, donc avec les spoils. Et on voulait tout d'abord, parce qu'on a déjà parlé des personnages principaux, on voudrait aborder les personnages secondaires que Maëlie a notamment qualifiés de fonctions. Est-ce que tu peux justement nous expliquer en fait qu'est-ce que tu veux dire par là, par fonction ?
Moi, je trouve que dans ce roman-là, les personnages, les objets, enfin certains objets qui font office de symboles et les lieux ont ce caractère de fonction dans le sens où ils servent au récit plus qu'ils existent par eux-mêmes. Pour les personnages, on a donc Adi, Luc et Henri qui sont des personnages très développés. Le roman vit à travers eux et dans ce roman, on a Luc, Adi et Henri qui sont les personnages centraux. Ils sont très développés, tout ça. Et on voit notamment à travers Adi d'autres personnages qui sont porteurs à chaque fois plus d'une symbolique. Ils sont pas développés, ils sont là pour quelque chose. Ils servent à Adi, ils servent à nous montrer un univers, ils servent à nous montrer la façon dont Adi a pu évoluer, dont elle voit les autres, elle voit le monde. Je trouve que on le voit beaucoup aussi dans le fait que Adi, à la fin, elle a perdu un peu de son humanité. Elle voit plus les choses de la même manière, plus les personnes de la même manière.
En fait, ce qui est intéressant avec ces personnages secondaires, c'est qu'ils sont juste là à un moment de la vie d'Adeline. Ah oui, parce que Adeline, c'est son vrai prénom, pardon. Comme on est sur une période d'à peu près de 300 ans, on va suivre du coup la vie d'Adeline. Et il y a des personnages comme ça qui vont pop, qui seront là juste à les 1, 2, 3 chapitres. Et en fait, qui vont juste l'aider à grandir et tout simplement à voir le monde d'une autre manière. Enfin, on va prendre l'exemple de Rémi, qui je trouve est un des personnages les plus intéressants, donc Rémi dedans.
C'est un jeune homme qui est de la moyenne basse classe.
C'est ça, un campagnard presque.
Et qui a soif de savoir, de penser. On est donc autour des années 1800, je crois.
Ouais, je crois.
Donc on est dans le développement des lumières, de tout ça. Et il est très dans cette dynamique-là. Il aime Voltaire, il veut apprendre, lire. Et
il a décidé tout simplement d'aller à Paris, là où les grands penseurs se retrouvent.
Pour moi, il est porteur d'une symbolique. Il a un rôle, c'est-à-dire il initie Adi à la lecture et aussi, il y a un petit passage où il initie aussi à la sexualité.
C'est bon, je m'en souviens. Et c'est même la fin touchante ou horrible où il se réveille et ne se souvient pas d'elle. Et pense que c'était juste comme ça,
ouais.
Qu'il avait trop bu, etc.
Rémi, ça va être la véritable première fois d'Adi.
Ça va être la première fois pour tout. Il va, bah comme tu as dit Maëlie, il va l'initier au livre, il va l'initier aux relations sexuelles tout simplement. En fait, il va la faire beaucoup grandir et il va du coup la marquer à vie. C'est un personnage en gros qui a aidé Adeline à évoluer tout simplement.
Il représente un peu ce jeune homme qui a soif de savoir, qui veut être dans le monde, qui veut grandir par les idées nouvelles. Et leur relation avec Adi est juste incroyable, elle est faite de rire et de découvertes pour Adi. Et la fin de leur histoire est d'autant plus tragique. C'est là où elle se prend une claque avec sa malédiction, je pense.
Donc en gros, ce que veut dire que les personnages fonctions et les lieux fonctions dont on les abordera juste après, c'est en fait des personnages qui vont avoir un impact à un moment de la vie d'Adeline pendant ses 300 ans de solitude. Et qui vont l'aider à évoluer ou qui vont l'aider à aller dans une direction. Rémi, je trouve, montre bien cela. Il va l'initier au livre, sachant qu'après, elle rencontre Henri dans une librairie. Donc peut-être que si elle n'avait pas été initiée au livre de cette manière, elle n'aurait jamais rencontré Henri de cette façon-là.
Ah, je pense pas, moi.
Bah, ce que je veux dire par là, c'est que Rémi a un impact dans son rapport à la lecture.
Ça, je suis complètement d'accord qu'elle a un impact. Après, je me dis, si elle n'avait pas rencontré Rémi, on n'aurait pas eu cette belle histoire entre eux, mais elle aurait découvert la lecture autrement. Elle aurait de toute façon rentrée dans la lecture, vu le caractère d'Adi, ça aurait été impossible.
Ce que je veux dire, c'est tout simplement que ces personnages fonctions, dont Rémi, sont juste là.
Pour moi, pour faire évoluer Adi, après, je trouve que t'as pas, dans les personnages fonctions, t'as pas seulement cette idée d'évolution et de découverte de la part d'Adi.
Non, bien sûr.
T'as par exemple Fred, qui est du coup, on passe là en 2014. Fred, c'est un vieil homme qui vend ses livres sur un trottoir de New York. Et pour moi, son rôle, c'est pas de faire évoluer Adi, mais c'est de donner un peu une image et une identité à une rue banale. Et même à New York en entier, c'est un peu... Il nous sert d'introduction à New York pour moi.
C'est vrai, je suis d'accord. En soi aussi, ce qui va de même pour Henri, par exemple, quand on prend sa meilleure amie Béa ou son ex-petite amie Ruby, c'est ça ?
Oui, c'est Ruby.
Ils permettent aussi de mieux comprendre le personnage d'Henri, je trouve.
Je pense que Henri, t'as Béa, Ruby qui sont importants, mais moi, ce qui m'a permis de vraiment comprendre Henri, c'est Stabita, c'était son
ex-copine.
Ex-copine qui a refusé sa demande de fiançailles. Et il était fou amoureux. Et c'est là où tu vois un peu, où moi, ça m'a brisé le cœur. Tu vois que Henri, c'est un personnage tellement sensible et qui s'est brisé sur un amour.
Un amour que Aline, elle, n'avait pas eu encore et qu'elle recherchait.
Je sais pas si Adeline peut avoir un amour fou comme Henri.
Non, dans mais le sens... c'est ce qu'elle rêve d'avoir.
Oui, je pense que ça va assez dans ce rêve un peu romanesque
De l'époque.
De l'amour à tout prix. Même maintenant, t'as beaucoup de gens qui cherchent l'amour véritable.
Ouais, c'est vrai, toujours. De toute façon, les livres et les films nous donnent envie d'avoir ce genre d'amour.
Et puis ça a toujours été ça chez les auteurs, dans la littérature, dans les poèmes. T'as toujours ce truc-là de l'amour incroyable, celui qui fait voir le monde autrement et qui est intemporel. Je pense qu'on peut passer maintenant sur plus les lieux et les lieux-fonctions du coup.
Alors déjà, chronologiquement, on peut revenir à Villon, le village d'origine d'Adi. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est le grand if. Je sais pas si toi aussi, d'ailleurs.
Alors moi, pas forcément. J'ai trouvé, moi, ce qui m'a marqué dans Villon, c'est vraiment cette idée du petit univers d'Adi. Du fait que c'est son point de départ, et c'est un point de départ tellement petit pour des attentes si grandes et ce besoin de liberté.
Mais en même temps, elle retrouve plusieurs fois cet arbre. Elle retourne le voir plusieurs fois. En soi, c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs dans ce village qui sont décrits bien précisément. Enfin, du coup, il y a cet arbre, la maison, sa voisine, qui fait que justement, je suis d'accord, c'est la ville en elle-même. Je suis d'accord en soi, en fait, avec ce que t'as dit.
Ce que je trouve bien avec Leaf, c'est qu'il est intemporel comme Adi quelque part. C'est-à-dire que tout finit par disparaître à Villon pour Adi. Sa maison, les tombes commencent à vieillir.
Ouais.
Pareil pour la maison d'Estelle. Même l'arbre qu'elle va planter sur la tombe d'Estelle va partir, enfin va être déraciné. Alors que ce vieil if, on l'a tout le long à Villon. Et je crois que c'est 200 ans plus tard, t'as toujours des enfants qui jouent sur cet arbre, ce même arbre où Adi a joué petite. Comme deuxième lieu très important, on a Paris, qui pour moi est un peu la désillusion d'Adi.
Face à ses rêves, elle était naïve. Elle pensait que tout est beau en dehors de Villon, que tout était simple. En fait, c'est comme ça qu'on rêve de nos voyages, je pense toujours. On a l'impression qu'on va visiter une ville, tout sera beau, tout sera comme sur les réseaux sociaux. Bah, c'est un peu ce qu'elle avait de Paris, et elle arrivait là-bas, et elle s'est pris la réalité en pleine face.
Pour moi, elle a Villon, où c'était son petit univers. Elle était trop serrée, elle connaissait par cœur, elle n'en pouvait plus. Et elle avait ce rêve de Paris, en pensant que ce serait une ville magnifique qui lui offrirait tous les horizons. Elle tombe de très très haut. Quand elle arrive à Paris, l'une des premières choses, c'est elle tombe dans la prostitution pour pouvoir vivre. Et c'est un truc, c'est horrible. Son père lui parle de Paris à travers des contes. Elle y voit des rois, des princes, des princesses, des penseurs. Pour elle, la liberté, c'était Paris. Et elle découvre Paris et elle découvre l'environnement qui est dur. Je crois qu'il y a un truc un peu sale aussi.
Bah, de toute façon, les rues à cette époque-là, c'est sale, tout simplement.
Oui, vraiment, et elle découvre un Paris qui est vraiment impitoyable.
Puis, quand t'es une femme, à cette époque-là, en fait, tu peux pas te balader seule. Donc, il y a aussi ce regard qu'elle se prend en marchant tout simplement dans la ville, qui la met mal au point qu'à un moment donné, elle se travestit en homme.
Je trouve qu'elle a mis beaucoup de temps à se travestir en homme.
Oui, bien sûr. L'idée lui est venue quand même tard.
Ouais, moi j'ai trouvé ça à la fois très vrai, à la fois vraiment dommage, ce travestissement qui est très tardif. Parce que maintenant, avec notre vision moderne, on s'y attendait beaucoup plus tôt. On sait qu'à cette époque-là, c'est très restrictif d'être une femme. Enfin, il y a beaucoup de contraintes au fait d'être une femme. Et beaucoup de liberté en tant qu'homme. Et moi, j'étais en mode, elle va arriver à Paris, elle va se rendre compte de la galère que c'est. Et directement, elle va penser à se travestir en homme au bout de quelques mois. Elle a mis des années à le faire.
Non, parce que Adi, malgré tout, ça reste quelqu'un de hyper naïf de base.
Et on le voit beaucoup dans ses vols. Elle est obligée de voler. Et elle a tellement de mal à voler.
Au début.
Oui, au début. Et c'est là où on voit l'évolution énorme d'Adi, où au début, voler, c'est très dur. Au tout début, c'est impensable. Elle souffle le martyr sans se dire « il faut que je passe le pas ». Et à la fin, c'est naturel. Elle vole sans penser aux conséquences.
Parce qu'à la fin, elle se voit plus comme une humaine. Du coup, le vol, c'est juste quelque chose de banal pour elle, en fait. C'est devenu son quotidien. Et en soi, elle se dit « bah je m'en fous, de toute façon, j'ai aucun impact sur leur vie ».
Oui, et c'est même à l'excès. Et c'est Luc qui lui fait la réflexion de « mais quand tu voles, il y a des gens qui en payent le prix derrière ». Il parle de ça notamment quand elle est dans une maison et elle vole du chocolat. Et il lui dit « mais les domestiques vont prendre pour ton vol ».
Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. D'ailleurs, je pense que c'est à peu près à cette période-là. Il y a un autre lieu qui m'a extrêmement marqué et je trouve que c'est hyper important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de chapitres qui tournent autour de ce lieu et sa volonté de se faire son chez-soi. Je sais pas si tu te souviens, c'est cette sorte de cabane, cette maison abandonnée qu'elle essaye en fait d'aménager pour qu'elle devienne sa maison.
Ah, tu parles à Paris, c'est l'espèce de grenier abandonné.
C'est ça, où elle essaye de se faire des dîners ou même... C'est les premières fois où elle attend Luc, où leur relation évolue en fait, où il passe d'ennemi à un ennemi tout lover, on va dire.
T'as un peu ce truc-là où cet endroit qu'elle va essayer d'aménager, elle va vouloir avoir une certaine appartenance.
C'est ça.
Là où elle peut n'appartenir à personne, elle veut qu'une chose lui appartienne, être rattachée à quelque chose.
Et c'est un peu son premier vrai affrontement contre Luc, si je me trompe pas, où elle défie en fait son autorité. En mode, regarde, je vais te prouver que je peux avoir justement quelque chose qui m'appartient, un chez-moi, tout simplement.
Et c'est là aussi où on voit à quel point Luc peut impacter Adi et être quelque part cruel, parce qu'elle va l'attendre dans son chez-soi et il va pas venir.
Ou il va venir quand elle ne l'attend pas.
Luc peut choisir les moments où il rend visite à Adi.
Et il revenait pas chaque année le jour de son anniversaire ou le jour de l'anniversaire du pacte?
Chaque année, il revenait à l'anniversaire du pacte.
Et elle l'attendait.
Et le jour où il n'est pas revenu, enfin l'année où il n'est pas revenu, c'est justement cette année-là où Adi l'attendait et où elle avait une position favorable vis-à-vis de lui.
Pourquoi déjà? J'ai oublié.
Parce qu'elle avait son chez-soi, qu'elle avait préparé un dîner, qu'elle avait une belle robe, tout ça, pour montrer qu'elle n'était pas misérable et qu'elle n'était pas bloquée dans un monde où personne ne la reconnaît, qu'elle avait quelque chose à soi.
On en parlera peut-être après sur la relation Adi-Luc, où je trouve que c'est justement cet endroit a eu un énorme impact, positif comme négatif, dans leur relation. Il y a eu ce truc où il est venu pour la faire capituler, comme elle allait rester pour le faire capituler. Et c'est pour ça que je trouve que cet endroit est très important dans l'histoire et que c'était son premier chez-soi depuis le pacte. Comme dernier lieu fonction qu'on avait envie d'aborder, il y a la librairie, The Last Word. Donc vous avez reconnu, on s'est inspiré du nom de la librairie pour le nom de notre podcast.
Oui, cette librairie, donc c'est la librairie d'Henri. C'est là où il travaille et où il y aura la première rencontre entre Adi et Henri. C'est aussi à ce lieu-là où il va la reconnaître et où elle va se
rendre compte que quelqu'un l'a reconnue alors que la porte était fermée.
Ouais, c'est un peu leur point d'attache.
C'est ça.
Je trouve ça tellement beau que ce soit dans une librairie. Déjà parce que le support de l'œuvre, c'est un livre.
Oui.
Mais aussi parce que les livres ont ouvert l'univers d'Adi. Elle qui ne peut pas raconter son histoire, elle dévore les histoires des autres. Et je trouve ça assez beau et à la fois tragique.
D'ailleurs, on en reparlera de ça, cette idée qu'elle ne peut pas raconter son histoire, du coup elle dévore l'histoire des autres. Ça, ça sera, je pense, le dernier point qu'on abordera à la fin. Donc il y a sa librairie, où d'ailleurs il y a un autre personnage qui est un peu comme un personnage fonction, c'est Grimoire, le chat, qui est en fait la cause de... Pourquoi Henri et Adeline se sont parlé pour la première fois? Parce que Grimoire d'habitude s'en fout des clients, mais par contre il est venu la voir. Voilà. Ouais, cette librairie en fait, c'est un autre lieu fonction qu'on va retrouver plusieurs fois dans la partie présent en 2014. C'est un lieu de rencontre.
Je trouve aussi que The Last Word, c'est un peu le rôle d'un chez-soi, dans le sens où pour moi The Last Word prend le rôle qu'aurait dû avoir l'appartement d'Henri.
Ah, tu trouves? Moi je trouve pas.
Ouais, je pense que t'as un peu un truc où c'est hors du temps, où c'est un lieu de rencontre, où c'est un lieu un peu où tout le monde est plus que à l'aise et rassuré.
Moi, je le voyais plus The Last Word, un peu comme le nom, en fait, le dernier mot comme ça. Je trouve que c'est un peu genre le lieu final, du fait qu'on s'arrête beaucoup sur le présent, etc. C'est comme si, en fait, elle arrivait dans cet endroit et que le chronomètre, il s'est remis en marche.
Je ne sais pas si c'est le chronomètre s'est remis en marche ou un nouveau chronomètre a démarré.
Je ne sais pas comment dire, mais c'est comme si il y avait un compte à rebours qui s'était lancé. Pour ça, the last word, le dernier mot, je trouve que ça va bien.
Je suis complètement d'accord sur le compte à rebours. On aurait pu dire, genre, le temps redémarre.
Ouais,
mais je trouve, t'as plus cette idée de...
compte à rebours.
De compte à rebours.
Je l'ai trouvé là, comme ça, j'étais contente. Donc maintenant, on va passer à la sémiotique. Enfin, quand je dis sémiotique, c'est tous ces objets fonctions.
On va aborder une nouvelle fois donc les objets importants du livre.
Qu'on retrouve, notamment, il y en a certains qui sont illustrés même directement dans le livre. Donc on vous le dira à chaque fois. Et c'est très intéressant parce que ces objets, en fait, délimitent des parties du livre, délimitent des parties de l'histoire d'Adi. C'est pour ça qu'on trouvait ça important d'en parler parce que je trouve que l'autrice et le personnage, du coup, appuient beaucoup sur ces objets-là pour raconter son histoire.
Moi, je commencerais bien les objets par la bague, qui est pour moi l'objet le plus important du livre.
Déjà, en fait, pour revenir sur l'histoire du pacte avec Luc, pour faire le pacte, elle devait prendre un objet qui était cher à son cœur. Et elle a choisi la bague en bois qui était de son père, c'est ça ?
Oui, c'est son père qui lui avait fait à sa naissance pour qu'elle puisse la porter quand elle serait plus grande.
Elle a donné cette bague et c'est devenu l'objet du pacte. Donc en fait, c'est littéralement le seul objet de 1714 à 2014 qui va la suivre. Il ne va pas s'effriter à cause du temps, elle ne va pas le perdre. Elle va même essayer de le jeter et à chaque fois, il reviendra à elle. Et c'est pour ça qu'il est très important dans l'histoire.
Je pense plus qu'un objet qui va la suivre, c'est un objet qui est aussi vieux qu'elle.
C'est ça, ouais. Cette bague, en fait, lui rappelle tout simplement tout le temps sa malédiction, en fait.
Je trouve ça tragique que la bague s'est passée de son objet préféré qui représentait son père à l'image du pacte.
En gros, le pacte a un peu changé quand Luc et Adi se sont rapprochés et c'est devenu plus Luc qui avait l'objectif de l'emmener avec elle. Même si en soi ça a toujours été le cas, c'est que...
il voulait prendre son âme pour la garder éternellement avec lui.
Voilà, c'est ça. Donc ensuite, il y a l'oiseau. Alors l'oiseau, en fait, c'est un petit... tout simplement un petit oiseau en bois que son père a sculpté.
L'oiseau, c'est le seul objet qu'elle va prendre à son départ de Villon. Mais plus que le temps qu'il rattrape, c'est la malédiction d'Adi qui rattrape l'objet. La première fois qu'elle tombe sur l'objet, elle le casse et il se répare tout seul. Parce qu'elle ne peut rien casser.
Ouais.
Mais elle perd l'objet parce que quelqu'un d'autre le casse à sa place.
Comme tu dis, c'est vraiment la malédiction qui la rattrape. Ensuite, elle va retrouver cet objet, enfin un objet un peu similaire, pareil, c'est des sculptures avec des oiseaux comme ça. Et du coup, elle va dire, bah, c'est un peu comme si c'était quand même une part de moi. C'est pas vraiment elle qui a fait l'objet, c'est ni son oiseau de base, il est quand même similaire.
Je crois qu'elle a inspiré l'œuvre de l'oiseau.
Sûrement, mais en tout cas, c'est un des objets qui est illustré dans le livre. Ensuite, on voulait parler de son exemplaire de Voltaire.
Celui-là, je trouve que c'est hyper important parce que c'est son premier livre. Il est rattaché au personnage de Rémy. Je trouve que la symbolique est belle du fait que ce soit un ouvrage de Voltaire qui a été vraiment un grand penseur des Lumières et qui à l'image d'Adi, voulait un certain progrès, même si c'est pas dans le même registre.
Ensuite, comme objet, on a le tableau dont elle a inspiré. En fait, Aline, dans ses personnages qu'elle a rencontrés au fil de sa vie, il y a une peintre, Sam. Et donc, elle va passer une nuit avec cette femme, et cette femme va la peindre. Mais encore une fois, Aline, elle reste qu'un mirage dans la vie de cette femme, et elle va pas réellement apparaître sur le tableau, mais il y aura juste ces 7 taches de rousseur en forme de constellation. Et c'est intéressant parce que c'est la première fois que nous est présentée l'idée qu'elle développe Adi durant tout le livre, c'est que les idées sont plus fortes que les souvenirs.
Sam est une peintre qui a la particularité de peindre des ciels en fonction des gens qu'elle rencontre. Et elle va peindre ce ciel à l'image d'Adi. Et comme très distinctif, on a ces 7 taches de rousseur. Je trouve ça hyper intéressant que ce soit un peu sa signature. Dans les œuvres qu'elle a inspirées, on trouve pratiquement à chaque fois ces 7 taches de rousseur.
C'est son signe distinctif. C'est un peu un objet aussi d'ailleurs, les taches de rousseur. Ces 7 taches de rousseur qui forment une constellation, on le retrouve dans tout le livre. Et comme tu dis, presque à chaque fois qu'elle va inspirer une œuvre, il y aura cette idée de taches de rousseur. Bah, on le retrouve aussi sur le livre. Enfin, on le retrouve souvent en fait. C'est vraiment le signe qui la distingue et qui limite reste dans les mémoires des gens qu'elle rencontre.
D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il y a une symbolique derrière le chiffre 7 ?
C'est une bonne question, je pense qu'il faudrait aller faire la recherche entre ces 4.
Le chiffre 7 a souvent une symbolique. Souvent, on l'assimile au chiffre parfait. On a beaucoup cette répétition des 7 avec les 7 péchés capitaux, etc.
C'est vrai.
le chiffre 7 marque beaucoup la littérature, la mythologie, toutes les histoires. T'as beaucoup cette idée des 7 quelque chose.
Ensuite, comme avant-dernier objet, nous avons les Polaroïdes. Alors les Polaroïdes, pour remettre dans l'histoire, c'est Henri qui les prend. Henri, il faut savoir qu'il a un talent, même s'il se trouve pas forcément talentueux, c'est la photographie. Et il aime beaucoup prendre en photo avec un Polaroid. Il va prendre en photo justement Adeline et on va juste avoir une image floue d'elle. Elle va apparaître sur cette photo mais de manière floue, on pourra pas la reconnaître.
Et je trouve ça d'autant plus intéressant, déjà que ça représente Adeline qui peut pas apparaître clairement dans la tête des personnes qu'elle rencontre quand elle quitte leur champ de vision ou qu'elle passe dans une autre pièce. Mais en plus, ça va être ressorti à la fin du dernier chapitre où il va être fait mention de ces Polaroids. C'est une critique d'art qui va dire que les Polaroids ont été retrouvés dans les affaires d'Henri et qui va soulever toute une question autour de ça où on comprend que les Polaroids, où Adi apparaît floue, elle apparaît quand même. C'est la seule forme d'art où les traits d'Adi ne peuvent pas apparaître distincts. Et on se dit au début que la photographie, et elle le dit elle-même, c'est un art qui lui est exclu complètement. Mmh. Et à travers cette critique d'art qui soulève la question de ces Polaroids, elle existe dans l'art, même dans la photographie.
C'est ça. Et d'ailleurs, on peut retrouver un peu cette idée de photographie dans l'illustration de la première page de couverture. Et d'ailleurs, autre art aussi, quand même, juste parenthèse, qui lui est un peu totalement échappé, c'est qu'elle ne peut pas dessiner par elle-même. Donc, je sais qu'elle a réussi à dessiner ou à écrire son histoire par le biais de Henri. Elle, qui est passionnée de dessin, n'a jamais pu redessiner parce que quand elle dessinait, en fait, ça s'effaçait. Je me souviens qu'elle dessinait à travers les mains de Henri, mais son pacte lui a privé de sa passion.
Je suis d'accord avec ça. Je trouve ça un peu tragique. Elle qui ne peut vivre l'art que par les autres. Alors qu'elle en était passionnée.
Oui. Pour finir, on va parler du livre. Alors, ça nous fait un petit lien pour la fin de notre podcast, mais juste avant, on fera une dernière partie sur les citations qui nous ont marquées. Le dernier objet dont on a envie de parler, c'est le livre à la fin.
À la toute fin, Henri va sortir un livre sur la vie d'Adi.
Quand il le sort, il y a juste écrit « La vie invisible d'Adi Larue » dessus. En fait, je trouve qu'il n'y a pas son nom d'auteur, etc. Et c'est juste pour « Bah voilà, je raconte ta vie, tout ce que tu m'as raconté, bah voilà, je le sors et maintenant tout le monde se souvient de toi. »
Et je pense que c'est aussi parce que Adi, c'est très dur pour elle de ne pas pouvoir entendre son prénom, de ne pas pouvoir le dire.
Que ça
et
soit juste Luc qui le dise.
Voilà, c'est ça. C'est une forme d'appartenance à Luc. Le fait que ce soit la seule personne qui puisse dire son prénom.
Adi, ma Adi.
Ouais, c'est ça. Ma Adeline, c'est très possessif. Le fait qu'il y ait seulement son prénom, en gros, c'est un peu un remerciement de Henri pour Adi de dire « bah, il y a vraiment ton prénom là et je le dis quoi ».
Et le fait, encore une fois, qu'il n'y ait pas le nom de l'auteur, parce que techniquement l'auteur c'est Henri, c'est vraiment pour redonner le livre, l'histoire à Adi. Et c'est vraiment beau. Et puis aussi sur ce livre, il y a écrit « Je me souviens de toi ». Cette phrase, c'est la phrase qu'Adeline a toujours voulu entendre de la bouche de quelqu'un. Et il a fallu attendre qu'elle se sacrifie, qu'elle accepte de partir avec Luc. On verra la suite après, pour qu'elle l'entende, pour qu'elle le lise. Et ouais, il lui rend hommage, il la remercie, il réalise son rêve à sa place. Et c'est un peu comme une boucle est bouclée en fait. Luc a perdu depuis que ce livre est sorti.
Je pense que plus que depuis que ce livre est sorti, c'est qu'il a perdu à partir du moment où Henri a prononcé ces mots. Même si on le verra, c'était prémédité de la part de Luc.
Pour faire craquer Adi, qu'elle est ce qu'elle veut depuis toujours et que du coup après il a.
Et que la chute soit terrible parce que les jours d'Henri sont comptés.
Sauf qu'il connaît mal Adi. Elle abandonne jamais.
Elle abandonne jamais, elle est tenace. Pour moi, Luc ne l'a pas vu comme ça, ne l'a pas compris comme ça, parce qu'il n'a jamais été à la place d'Adi.
C'est une créature possessive, tout simplement. Je pense qu'on peut passer à l'avant-dernière partie, c'est-à-dire les citations qui nous ont marquées.
Moi, la phrase qui m'a le plus marquée et le plus touchée dans le livre, que je retiens ce livre-là, c'est « J'ai vu un éléphant ». C'est ce que dit Adi quand Luc lui dit d'abandonner. Elle lui rétorque « J'ai vu un éléphant ». Je trouve ça tellement beau. Cette phrase, pour moi, elle montre comment Adi voit le monde, le pacte qu'elle a conclu avec Luc. C'est une malédiction, mais elle a quand même obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire découvrir le monde, être libre. Et le fait qu'elle abandonne pas malgré toutes les difficultés, malgré une vie qui est difficile, que moi j'aurais abandonné mais 1000 fois, c'est cette envie de découvrir, cette envie de s'aimer. Émerveillé. Et cet éléphant, cette phrase, elle représente tellement ça, tellement la vision qu'Adi a du monde.
Ensuite, personnellement, il y a beaucoup de citations et de phrases qui m'ont marquée. mais il y a « soit je trouverai un chemin, soit je le tracerai ». C'est une phrase qui a été dite par Rémi. Vraiment, Rémi aura eu de l'impact tout le long du livre, quand même, je trouve. Et je trouve que cette phrase, en fait, a été un peu comme un mantra, après, pour Adi. Cette idée de elle-même tracer son chemin et de se battre. Je trouve que Rémi lui a beaucoup transmis ça, et je trouve que cette phrase, du coup, elle est super importante, parce que je trouve que ça montre une détermination du personnage que Adi va avoir tout le long du livre. Enfin, j'aime beaucoup cette phrase, je la trouve vraiment belle. Ensuite, il y a une autre phrase, un dialogue entre Henri et Adi qui m'a marqué au point où j'avais envie de me le tatouer sur le corps. Quand il lui dit « j'ai envie de te revoir » et qu'elle, elle répond « j'ai envie que tu me revoies ». Alors cette phrase, elle a énormément de signification. Déjà pour Henri, il y a le fait que lui seul se souvient d'elle, etc. Mais déjà, il a un coup de cœur pour elle, patati, il a envie de la revoir, etc. C'est un peu banal, genre c'est une phrase que tu peux avoir en date ou enfin dans n'importe quel film romantique.
Je suis désolée, mais moi, un date qui me dit ça.
Non, mais une personne que t'aimes, genre je sais pas comment
oui,
dire.
Oui, je comprends. Je comprends.
C'est la réponse d'Adeline qui m'a vraiment touchée, c'est le fait qu'elle dise du coup « j'ai envie que tu me revoies ». On comprend le double sens en lisant le livre, que c'est parce que bah, Henri, c'est la seule personne qui se souvient d'elle et que du coup, bah, elle a envie qu'il la revoie.
Il y a une signification latente qui est beaucoup moins belle que la phrase en elle-même. Ils ont envie de se revoir parce qu'ils se plaisent, certes, mais aussi parce qu'ils voient chez l'autre ce qu'ils ont voulu voir depuis si longtemps chez d'autres personnes.
Oui, mais en soi, juste le « j'ai envie que tu me revois » veut tout simplement dire bah, « j'espère que la prochaine fois, tu te souviendras de moi ».
Ça, je suis bien d'accord. Adi a tellement rêvé de ça, a tellement voulu que la personne la reconnaisse que même après qu'Henri l'ait reconnue, elle doute encore. Elle se dit, c'est un coup de chance, la prochaine fois peut-être pas. Et ce « j'ai envie que tu me revois », c'est pas seulement « j'ai envie que tu me revois », mais c'est « j'ai envie que tu te
souviennes de moi ».
Voilà, que tu te souviennes de moi. Pour moi, c'est ça qui est un peu latent de « j'ai envie de te retrouver et que genre je me retrouve dans ton regard ».
C'est ça, je suis d'accord. Bah, y a encore toutes ces phrases où, que j'ai beaucoup aimées, c'est « Adi peut provoquer un tas de réactions, pense Henri, mais l'oublie certainement pas ». En fait, c'est juste, ça rappelle le fait que lui, il ne comprend pas comment c'est possible cette histoire, alors que c'est une personne genre, tu peux pas l'oublier en fait, elle est trop marquante quand tu la vois. Et donc, le fait qu'il y ait cette malédiction, alors que lui-même est victime d'une malédiction, en fait, c'en est presque...
Pour moi, t'as encore autre chose. On dit depuis le début, les gens oublient Adi. Est-ce qu'ils l'oublient réellement? Est-ce qu'elle vit pas à travers leur impression, leur inspiration? Souvent, on le voit à travers l'art, mais pour moi, ça va plus loin que ça. Elle fascine les gens et à la fois, elle est éphémère. Elle passe dans la vie des gens.
Il y avait aussi le... Alors, c'est plus un passage qu'une citation. C'est le cœur qui décide où l'on se sent chez soi, dit le proverbe. Ou bien, on ne se sent vraiment bien que chez soi. Ou encore, partir trop loin de sa maison donne le mal de pays.
Tout ça alors que Adi ne peut pas avoir de chez soi.
C'est
ne
ça.
Peut pas vraiment avoir de maison. C'est quelque part horrible parce que du coup, on sent qu'elle a aucun point de rattache et qu'elle dérive pour moi. Elle admire le monde, elle le découvre, mais à la fois, elle passe dans le monde sans s'en rattacher, sans que ce soit concret.
Ensuite, il y a les petites phrases de Luc, le « Oh Adeline, Adeline, mon Adeline ». En fait, je trouve que ça résume très bien le personnage de Luc, le « mon Adeline ».
En fait, je trouve le personnage de Luc, c'est à la fois un dieu, mais t'as ce côté-là où...
Dark romance.
My bad. Où dark romance. Luc a l'habitude de posséder. Il fait le marché des âmes. Il exauce les souhaits des humains pour posséder leur âme. Il a ce but-là de obtenir quelque chose... Pour moi, l'âme, c'est forcément quelque chose de beau qui appartient à la personne. Il veut obtenir ce qui n'est normalement pas possible d'obtenir. Mm. Et Adeline lui échappe. Il en tombe amoureux et c'est la seule personne auquel il ne peut pas se rattacher, qu'il ne peut pas vraiment obtenir. C'est pour ça qu'il insiste tellement avec le fait qu'elle abandonne, qu'elle lâche prise parce qu'il veut l'obtenir. Ça reste dans un truc qui, du coup, n'est absolument pas sain. Il est...
Bah, c'est quelqu'un de malsain, façon de base, mais c'est un dieu de la nuit, quoi, tout simplement.
Il est même peut-être possessif envers Adeline, en l'appelant mon Adeline, tout ça, pour que, quelque part, elle lui appartienne parce qu'il ne peut pas l'obtenir.
Oui. Enfin, j'ai une dernière citation que j'ai envie d'aborder, et c'est peut-être ma préférée avec, du coup, « J'ai envie que tu me revoies ». C'est « Déjà vu, déjà entendu, déjà vécu ». Cette citation, pour moi, c'est pareil. C'est tout simplement le résumé de la vie invisible d'Adi Larue. C'est son mantra. Elle le dit à chaque fois.
T'as raison. Ça, vraiment, ça traverse, ça définit la vie d'Adeline. Je trouve aussi que c'est un peu à contresens de sa mentalité.
Ouais, c'est vrai.
c'est pour montrer que tout est répétitif, alors qu'elle s'émerveille des nouveautés.
Alors moi, je la vois bien le dire d'une manière assez blasée, en mode déjà vu, déjà entendu, déjà vécu.
Peut-être que c'est aussi un moyen de se raccrocher et de pas lâcher prise.
Totalement.
De pas se dire « Oh non, c'est encore arrivé », mais de se dire d'une façon poétique « Ça arrive, ça arrivera, et c'est triste, mais c'est mon triste à moi ».
En tout cas, elle se dit cette phrase dès qu'elle a déjà vécu un moment comme celui-ci. Et en tout cas, ça accentue bien le côté répétitif, monotone, et bah, ça fait 300 ans qu'elle est là, que tout le monde l'oublie toujours, etc.
C'est une phrase qu'elle emploie beaucoup envers des personnes qui disent la même phrase quand elles la voient. Genre, y en a qui ont la même phrase d'introduction quand tu vois Adeline.
Tu as quelque chose d'intemporel.
Voilà, c'est Béa, l'amie d'Henri, qui à chaque fois qu'elle la voit, dit cette phrase, qui est très belle et hors de ce contexte-là, serait incroyable. Mais elle vit cette phrase comme des dizaines de fois.
Comme un déjà vu, déjà entendu, déjà vécu. Pour finir ce podcast, nous allons parler de la fin qui est très particulière. Alors déjà, pour rappeler comment se passe la fin, comment se déroule la fin, Adeline a décidé de faire un nouveau pacte avec Luc. Elle part avec lui. En échange, Henri vit. Donc elle va vivre ses derniers moments avec Henri, parce qu'on rappelle que l'objet de la malédiction d'Henri, c'est une montre. Donc il voit jusqu'à quand il va vivre, en fait, tout simplement. Ça va se passer sur le toit. Sur le toit, ils vont se dire au revoir. Et Henri, pensant qu'il allait disparaître, voit Adi disparaître, emmenée par Luc. Et en fait, tout simplement, Adi a changé le pacte.
Adi, elle part avec Luc, elle reste avec lui jusqu'à ce qu'il en ait marre d'elle.
Voilà.
Comme Adi vit éternellement jusqu'à ce qu'elle en ait marre de la vie. Pour moi, ça fait un écho à leur premier pacte et c'est magnifique.
Et donc, en gros, l'objectif de ce nouveau pacte qu'elle a ficelé avec Luc, c'est de pouvoir un jour se libérer et rejoindre, entre guillemets, Henri. En tout cas, rejoindre la réalité, tout simplement.
Ah, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça.
Pour moi, c'est ça. C'est son objectif de ce pacte, c'est de pouvoir un jour rejoindre Henri. Elle le dit un peu d'une certaine manière à la fin, quand elle va dans la librairie.
Ah, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Pour moi, le but de ce pacte, ce n'est pas de rejoindre Henri, mais c'est de libérer Henri, tout en jouant sur les mots pour la libérer, elle,
oui,
plus tard de Luc.
Ah oui, je suis d'accord.
Et c'est... du coup... Moi, je suis dans un truc plus... Elle sait qu'elle va pas revoir Henri.
Moi, c'était plus... Ouais, c'était plus l'idée de se libérer, mais aussi de pouvoir peut-être un jour rejoindre Henri.
Je vois l'idée, mais pour moi, Luc tiendrait plus longtemps que ça. Et Adi le sait. Il serait plus tenace.
Mais je pense que c'est un de ses objectifs. Son but, c'est de détruire un peu Luc d'une certaine manière, et surtout de se libérer. Mais il y a ce truc où c'est aussi d'une certaine manière de retrouver Henri peut-être un jour, même si c'est pas forcément possible. Mais du coup, on va revenir sur l'acte qu'a fait Henri, c'est écrire l'histoire de Adi. Parce que le chapitre, enfin le livre se finit sur ça. Et en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est magnifique. En fait, on voit à un moment donné, il y a une phrase qui dit, enfin, une partie de chapitre qui dit « Elle voudrait être un arbre. Roger n'est pas mauvais bougre. Elle veut simplement vivre avant de mourir. » Elle mettra des années à apprendre le langage de ses yeux. Elle parvient à se hisser hors du tas en s'appuyant sur la colline osseuse formée par le dos d'un cadavre. Voilà comment sa première fois aurait dû se passer. Elle sent qu'il lui glisse trois pièces dans la main. Âme est un mot si imposant, la vérité est tellement plus modeste. Elle ne tarde pas à trouver la tombe de son père. Je lis ça parce qu'en fait, tout simplement, dans le livre, Henri dit « c'est lui qui a écrit, mais c'est pas son histoire, c'est l'histoire d'Adi ». Ces mots-là, en plus, c'est écrit en gras dans le livre. Je trouve que c'est tellement important parce que c'est bien répété à la fin de l'histoire. Il a écrit son histoire, que tout le monde se souvient d'elle. Et je trouve que c'est tellement beau que ça finisse comme ça. Surtout qu'en soi-même, ça s'est pas totalement fini comme ça parce qu'après, on retrouve Adi en train de voir le livre qui a été écrit pour elle, enfin sur elle, de dire c'est bon, bah, j'ai gagné ça. Et que lui, qu'il est en mode t'es à moi, mais elle est en mode oui, t'inquiète. Alors que son plan est mis en place. Que les gens se souviennent d'elle d'une certaine manière grâce à Henri.
Moi, je rajouterais peut-être un truc sur les phrases. Je trouve ça incroyable comment Henri a écrit le livre. Par ces courtes phrases qui font écho à certains passages. Ces passages qui sont tellement marquants et qu'Adi raconte de façon si banale.
Il y a d'autres phrases, il y a « Paris brûle, les ténèbres se décomposent. Il y a un ange au-dessus du bar. » En fait, pour ceux qui écoutent ce podcast et qui ont lu ce livre, chaque phrase va vous remémorer un moment du livre. Et c'est pour ça que je trouve ça super fort.
Surtout, je trouve ça fort du fait que ce soit pas la situation qui soit présentée, mais des passages de cette situation.
Ouais.
Quand elle parle de l'ange au-dessus du bar, ça fait écho à personne qui a lu le livre. Nous, quand on nous parle de ça, on pense directement à la situation, on pense au contexte, on pense à Luc, on pense à tout ce qu'il y a derrière ce simple ange au-dessus du bar.
Puis, dans le livre qu'a écrit Henri s'appelle « La vie invisible d'Adi Larue ». Et en fait, c'est un peu comme une boucle est bouclée. Voilà. Nous aussi, on l'a lu, « La vie invisible d'Adi Larue ». Elle existe dans notre monde aussi. Et ça fait comme si elle était vraiment réelle, du coup. Comme si, en fait, elle a existé dans notre monde aussi.
C'est vraiment une mise en abîme. Ouais. Le livre dans le livre. Non, moi, je trouve que c'est beau et ça fait une belle symbolique. Ça donne une belle fin. Le fait que personne ne se souvient d'Adi, personne n'a écouté son histoire. Et ils le découvrent tous à travers un livre dont elle est le personnage principal, dont son nom, qui lui a tellement manqué au fil des ans, soit marqué en gras sur la couverture.
Sans le nom de l'auteur, du coup, ça rend à César ce qui est à César.
C'est ça.
Ça aurait été un long et premier épisode.
En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
On espère que ça vous a plu et on vous dit bisous.